Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous. Donc, nous allons démarrer une conférence, débat, discussion sur la thématique de la littérature et le droit, protéger même ses personnages. Donc, je vais discuter de cette thématique avec Emmanuel Pierrat, qui est écrivain et avocat spécialiste de la propriété intellectuelle et de la censure, conservateur du musée du Barreau de Paris, auteur de nombreux essais, romans, collectionneur, et qui évidemment a rédigé également des articles sur cette thématique de la propriété intellectuelle. Et j'avais vu notamment dans une revue littéraire, sur un site littéraire, un article spécifique justement sur la protection des personnages. Alors, avant d'aborder la question de la protection des personnages, peut-être qu'il serait utile de faire un petit rappel du fonctionnement de la protection de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on protégeait historiquement, et on verra ensuite les évolutions pour arriver à la protection des personnages.
Bonjour tout le monde, et rebonjour pour ceux que j'ai déjà vus dans ma précédente conférence à 9h. D'abord, je remercie infiniment aux Imaginales et notamment à Stéphanie Nico, qui est ma comparse depuis de nombreuses années, pour m'avoir re-sollicité et fait venir avec une double casquette, surtout d'avocat ce matin, mais aussi d'écrivain. Accessoirement, dans les livres moins drôles qu'il faut lire, Sylvie, j'ai écrit 10 livres sur le droit d'auteur, donc voilà, c'est moins funky que mes romans, etc. Mais bon, de temps en temps, c'est utile. Et pratiquer en droit d'auteur, ça me rapporte un peu plus. C'est des livres un peu plus chers que les autres. Donc voilà, c'est le principe des ouvrages techniques. Puis je tiens une chronique juridique sur le site de Livre Hebdo, qui est le magazine des professionnels de l'édition, la bibliothèque et de la librairie depuis 25 ans. Ça n'existait pas il y a 25 ans en site. Ça existait en version papier. Le journal existe toujours, mais je suis passé en ligne. C'est lisible gratuitement. Voilà, en théorie, il y a beaucoup de choses sur les personnages, sur le droit des personnages. Pour rentrer dans le vif du sujet, la propriété littéraire artistique, alors appliquée aux personnages, parce que sinon c'est un cours que je fais en 38 heures à la fac, donc je vais le réduire ce matin, sauf si vous vraiment vous allez tenir, mais je pense qu'on va fuir la chaleur d'ici moins d'une heure. Globalement, ça va être l'arme essentielle pour parler des personnages ce matin, hein, même s'il y a d'autres dispositifs et d'autres techniques, d'autres facettes du droit à aborder sur les personnages, notamment leur protection par le droit des marques, les contraintes aussi morales qu'on applique aux personnages aujourd'hui, qui doivent avoir un comportement encore plus moral que n'importe lequel d'entre nous. Hein, je ne parle même pas d'un comportement légal. Les personnages ne fument plus, les personnages ne pigolent pas, les personnages ne se shootent pas, les personnages mettent leur ceinture quand ils roulent à 180 à l'heure, même dans une course-poursuite et qu'ils sont flics. Enfin voilà, c'est un tas de petites choses sur lesquelles on peut revenir après. Sur la question du droit d'auteur et des personnages, le droit d'auteur, c'est une très vieille invention française qui s'articule en deux grandes branches, pour faire simple. Lorsqu'une œuvre est protégée et un personnage est protégé, il existe un droit patrimonial et un droit moral. Droit patrimonial, ça veut dire qu'une création, que ça aille depuis un écrit, un personnage ou même aller une bouteille de plastique dessinée, elle entraîne la nécessité pour celui qui veut exploiter cette création de demander l'autorisation au créateur. Je simplifie beaucoup le schéma, hein, vous l'avez compris. Cette protection, le droit patrimonial est donc accordé à celui qui a créé, qu'il soit romancier, qu'il soit dessinateur, qu'il soit auteur de science-fiction, peu importe, sur ses personnages, sur ses écrits, sur le titre de son livre, à condition que toutes ces choses soient considérées comme originales. C'est-à-dire que le créateur ait fait des choix qui lui sont propres. Je ne crée pas juste un personnage d'un prof ou d'un écrivain. Je crée un personnage qui, par ailleurs, a les cheveux roux, une cicatrice, qui a un comportement ceci, colérique, qui a une histoire, qui a des caractéristiques qui lui sont propres. Et ces caractéristiques, elles ne me sont pas dictées par la technique de ce que j'écris. Elles ne me sont même pas dictées par la commande de l'éditeur. Elles me sont dictées par mes propres envies. Chaque fois que je peux choisir de faire le personnage blanc ou noir, brun ou brun, avec des yeux bleus ou j'en sais rien et des yeux pères, chaque fois que je fais un choix qui est propre, je donne de l'originalité à ma création et c'est ce qui la rend protégeable. Un personnage lambda, insipide, ça appartient à tout le monde. Un personnage spécifique, original, il est protégé par le droit d'auteur sans avoir besoin de le déposer. Il suffit qu'il existe. Alors, il vaut mieux le matérialiser. Hein. Il vaut mieux qu'il existe sous la forme d'un manuscrit, d'un fichier, d'un dessin, de préférence sur lequel vous pouvez prouver que vous l'avez créé à telle date et telle date. Mais en théorie, il suffit simplement que là, je vous décrive un personnage pour qu'il existe et qu'il soit protégé par le droit d'auteur, sans plus de formalité. Après, j'aurai un problème de preuve pour vous prouver que c'est moi, bien ce matin à Épinal, à 11h, et ainsi de suite. Droit d'auteur, ça dure 70 ans jusqu'à après la mort de l'auteur, donc c'est long. Ça a été rallongé au fur et à mesure sur 2 siècles d'histoire. Et c'est un outil qui donc se formalise par des contrats. Vous cédez à votre éditeur le droit d'utiliser un personnage, puis vous cédez à votre éditeur le droit d'utiliser et de revendre ce personnage pour le cinéma, pour un jeu vidéo, pour développer des produits dérivés, pour vendre, j'en sais pas, je prends le plus gros nombre de licences de produits dérivés, c'est un truc qui s'appelle Joe Bart Team, c'est une BD sur la moto. Il y a 700 produits dérivés qui sont faits pour les motards. Depuis le rétroviseur Joe Bart Team, le pot d'échappement, les gants, le casque, enfin, c'en est dément. Pour ceux qui aiment la moto, c'est très bien, pour les autres comme moi, c'est la stratosphère. Mais en tout cas, toutes ces autorisations, elles passent de l'auteur de Joe Bart Team à l'éditeur qui ensuite, ou pas, et l'auteur peut aussi décéder directement à des gens sous réserve de son pouvoir de négociation avec son éditeur. À côté de ça, l'auteur, il a un droit moral. C'est-à-dire quelque chose qui est que son personnage ne peut pas être placé sans son accord, ne peut pas être placé dans des situations qui portent atteinte à l'œuvre, qui portent atteinte à la façon dont vous avez conçu vos personnages. Et ce droit, pardon, je vais vous donner jusqu'au bout, et ce droit moral, qui n'est donc pas un droit cessible par contrat, c'est un droit qui reste propre à l'auteur et qui ne connaît pas une limitation dans le temps. Il est perpétuel. Jusqu'à ce qu'il y ait des gens pour le faire valoir au nom de l'auteur des centaines d'années après sa mort en disant « il n'a pas voulu ça, il n'a pas voulu que le personnage soit dans telle circonstance, soit malmené ainsi, face, j'en sais rien, du cinéma, de la comédie musicale, ou deviennent des cons », eh bien, vous devez respecter cette règle. Un exemple concret, j'ai plaidé il y a quelques années pour les héritiers de Victor Hugo, auteur donc tombé dans le domaine public, plus de droit patrimonial, évidemment, contre la suite des Misérables. Suite des Misérables, c'était quoi? C'était une affaire de personnage, parce que globalement, la personne qui avait à l'initiative d'une grosse maison d'édition avec pas mal d'argent fait un coup marketing qui consistait à écrire la suite des Misérables, faisait renaître Javert, qui était noir dans la Seine à la fin des Misérables, donc noyé dans la Seine en le faisant. Hugo voulait qu'il meure. Et c'était son destin. Dans la suite, évidemment, il est repêché. Il est sauvé non pas par le SAMU qui ne fait plus rien, mais par les sapeurs-pompiers. Il ressort, il se sèche, il repart. Cosette n'est plus une pauvre héroïne malmenée par les Thénardier, elle devient une femme au foyer abominable, qui soumit tout, elle ne survivrait pas d'ailleurs, elle serait considérée comme vraiment une femme asservie et le contre-modèle de ce qu'il faut faire. Mais ça, c'était il y a quelques années. C'est effondrant de effondrant. Et on a attaqué parce que Victor Hugo avait écrit des choses très précises sur le sort de ces personnages et leur destin. Et puis, accessoirement, il avait, en vertu de son droit moral, disposé que ni greffon, ni soudure, pas de suite à ses romans. Les personnages mouraient, les personnages devenaient des héros, le personnage était crucifié ou pas, c'était leur sort et personne n'avait le droit de le changer. Interdiction de la suite des Misérables par le biais des personnages et du droit moral des personnages. Voilà. Donc c'est les deux facettes avec lesquelles on peut jouer, entre guillemets, jouer à la fois comme auteur quand on cherche à protéger ses droits, mais aussi quand on est créateur et qu'on veut emprunter à d'autres personnages qui ont préexisté. Voilà. C'est possible dans un certain nombre de limites, mais qui sont disposées par ces deux corpus. Je vais très loin, donc il faut m'arrêter, Sylvie. Parfait.
Alors, on voit bien là, effectivement, que déjà, dès le départ, il y avait cette idée de protéger le personnage, parce que le personnage fait partie de la création. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, comme tu le signalais avec l'exemple de Joe Bart Team, maintenant, les éléments d'une création littéraire sont amenés à exister en dehors de l'objet livre ou à exister sous d'autres formes. Et là, la protection des personnages devient de plus en plus importante. Alors, tu as essayé d'avancer un peu sur une définition de ce qu'est le personnage. On a expliqué un peu le système en France, mais alors qu'est-ce qui se passe lorsque c'est à l'étranger que quelqu'un veut utiliser un personnage qui a été créé par une personne française, donc qui ressort du droit français?
Alors, je reviens en arrière pour préciser mon propos tout à l'heure sur les personnages. Donc, le droit d'auteur ne vise pas expressément les personnages. Dans la loi, dans la très vieille loi du 1791 et 1793, loi Le Chapelier et la Canale, loi révolutionnaire, qui ont été reprises aujourd'hui, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui le code de la propriété intellectuelle. C'est juste le même texte, hein, qui a changé de numéro et de nom. Mais c'est le même texte. Les personnages ne sont pas visés en tant que tels. Mais la loi ne vise pas tout. Elle dit sont protégées les créations littéraires, artistiques, etc. et toutes celles qui répondent aux critères. Et la jurisprudence, les tribunaux, depuis des décennies, considèrent que les personnages sont des créations littéraires ou artistiques, qui font partie intrinsèquement de l'œuvre et qu'en tant que tel, ils sont protégés dans leurs propres caractéristiques physiques, leur caractère, au sens français du terme, pas anglais, mais ils sont protégés par leur destin, leur trait de caractère, leur état d'esprit, leur comportement, leurs phrases, leurs célèbres noms, leurs célèbres injures pour certains, etc. Il y a tout ce qui constitue un personnage et qui est un choix de l'auteur lui appartient et est protégé. Jurisprudence, je vous les cite en vrac, allez, Chéri Bibi, Tribunal de la Seine, 2 mars 59. 1977, c'est Tarzan et Poil de Carotte, la même année, qui passe devant les tribunaux, donc sont considérés comme protégés. L'année d'après, pardon, non, un peu plus tard, 1990, Alexandra, c'est la compagne de SAS. C'est pas vraiment, elle n'est pas vraiment MeToo non plus. Hein, elle est plutôt, vous voyez, elle est, c'est pas vraiment la femme la plus autonome que je connaisse dans la littérature. Angélique, Marcisse des Anges, une dizaine d'arrêts de décisions de justice, parce qu'évidemment, un important business derrière qui a dépassé, ce sont les romans d'abord les plus traduits à l'étranger, les romans français les plus traduits à l'étranger, oui, c'est ainsi. Et Anne et Serge Gollon sont les auteurs les plus traduits depuis ce pays. Bon. Et surtout, évidemment, les films. Les films et donc la machine générale à diffusion, etc., qui a suscité énormément de jurisprudence et de discussions pour savoir si le nom Angélique et ce que faisait Angélique Marquise des Anges, son nom, son titre, etc., étaient protégés. Avec plein de choses compliquées. Je vous les cite juste pour ensuite venir répondre à la question. Par exemple, les tribunaux ont considéré qu'Angélique Marquise des Anges, oui, c'est protégé parce que c'est original. La totalité du nom, le nom plus le titre, enfin, Angélique, son titre de noblesse, entre guillemets. Mais les tribunaux, d'autres tribunaux ont dit Angélique tout court, c'est compliqué, parce qu'il existe déjà dans l'état civil des dizaines de milliers d'Angéliques, et personne ne peut privatiser Angélique, c'est-à-dire interdire à une jeune femme qui s'appelle Angélique d'utiliser son prénom, ou de signer un livre. Donc il y a une articulation très précise qui a été faite par les tribunaux en disant, dans ce cadre-là, avec tel environnement, oui. Dans tel autre cas, non. La difficulté, évidemment, elle est à l'étranger dans d'autres modes d'exploitation que le livre. Donc l'audiovisuel, le vidéo, le numérique et tous les produits dérivés. Notre grande chance, c'est que la conception française du droit d'auteur a été celle qui a été majoritairement adoptée à l'étranger. C'est-à-dire que la France a inventé la conception moderne du droit d'auteur, mais son modèle, après de très longues discussions, et notamment depuis la fin du mur de Berlin, enfin la chute du mur de Berlin, est aujourd'hui, on va dire, le modèle majoritaire. Si ce n'est que simplement mon discours sur le droit moral tout à l'heure s'arrête aux États-Unis. Le droit moral n'existe pas aux États-Unis. Donc on trouve d'autres techniques sur le droit patrimonial ou d'autres techniques de contrat pour empêcher des gens de malmener éventuellement des personnages. C'est le seul petit endroit, il n'est pas négligeable hein, en surface et en économie, mais où le droit moral n'existe pas. Mais dès qu'une œuvre est exploitée ailleurs, elle a beau être américaine d'origine ou être faite par des producteurs américains, elle tombe sous le coup de la loi où c'est exploité. Je vous prends un exemple qui n'a rien à voir avec les personnages, mais qui parle. Une année, Angelica Houston, la fille de John Huston, le cinéaste, se rend compte qu'aux États-Unis, on va coloriser un film de son père, qui s'appelle « Quand la ville dort », qui est un chef-d'œuvre en noir et blanc, voulu en noir et blanc. Pensé par John Huston en noir et blanc, la technique color existe déjà, ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème financier, c'est un choix artistique. C'est le seul noir et blanc, pour lui, pouvait porter ce film. Aux États-Unis, dans les années 90, on commence à coloriser en disant les vieux films en noir et blanc, les Yankees du Middle West tapent sur la télé parce qu'ils pensent que ça ne marche pas. Donc, il faut coloriser. Aux États-Unis, Angelica Houston ne peut rien faire. Droit américain, pas de droit moral, c'est un principe du droit moral. Son père ayant vendu les droits au producteur, il ne peut plus s'opposer à rien. Elle non plus, producteur américain, chaîne américaine, auteur américain. Mais pas de bol, les producteurs américains décident de diffuser ce film, de le vendre à l'étranger. Et notamment à une chaîne de télévision qui s'appelait La Cinquième. Vous êtes tous trop jeunes pour l'avoir connue, mais ou presque. Il y a quand même des plus anciens comme moi qui cachent bien leur ride, qui se souviennent de cette chaîne lancée par Lagardère, qui était un truc avec Jean-Claude Bourret, enfin assez ahurissant, mais peu importe. Et il s'était mis en tête de diffuser que des films colorisés. Angelica Houston, francophone et francoville, attaquée à Paris, et fait interdire la version colorisée du film dans toute l'Europe. Fin de la colorisation, pourquoi ? Parce que le marché américain ne suffisait pas à absorber les coûts de colorisation et qu'il fallait pour ça pouvoir exploiter dans le reste du monde. Et le reste du monde dit qu'il y a un droit moral. Et Angelica Houston faisant des procès, on arrête. Voilà. Donc, pour les personnages et la protection des personnages, même système. Il y a, selon les contrats, est-ce qu'on a cédé ou non, la vraie clé, elle est là. C'est est-ce que vous cédez dans votre contrat avec votre éditeur ou avec les gens avec qui vous pactisez, un site internet, j'en sais rien, peu importe, une appli, est-ce que vous cédez tout et la possibilité de tout faire, tous vos droits patrimoniaux? Alors après, vous pouvez pleurer sur votre droit moral, mais globalement, si vous avez laissé toutes les exploitations possibles sur tous les territoires sans contrôle, bon courage. Ou bien vous avez réussi à retenir un certain nombre de droits que votre co-contractant ne va pas exploiter immédiatement et vous avez encore une carte à jouer où que ce soit dans le monde. C'est là la vraie clé de la chose. Hein. Moi, je vois beaucoup d'auteurs qui regardent des parties de leur contrat qui, d'après moi, ne sont pas les plus intéressantes. Moi, je négocie très peu les pourcentages, même comme auteur ou comme agent, parce que j'ai une carte d'agent. Pourcentage sur zéro vente, ça ne m'intéresse pas. 20% sur zéro vente, ça ne veut rien dire. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'associer les pourcentages au succès. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de contrôler des droits dérivés. C'est de savoir si demain matin, mon éditeur, qui ne fait rien avec, va utiliser mes personnages pour en faire des t-shirts, des trousses scolaires, des j'sais pas quoi, des applis, des machins, des bidules. Si ça devient une saga, est-ce que je suis lié avec cet éditeur ? Parce que je lui ai vendu également les personnages. Et donc, je ne peux pas faire le volume 2 ou le volume 3 chez un autre éditeur. Est-ce que je peux en faire quelque chose ? Est-ce que je peux vendre les droits d'adaptation ciné ? Alors, les droits sur le livre que je lui ai vendu à mon éditeur, ça va être compliqué. Mais les droits ensuite de faire un préquel, un séquel, c'est-à-dire de réutiliser les personnages et de les faire revivre avant ou après l'épisode principal qui a donné lieu à la première adaptation, toutes ces choses-là, la clé est dans le contrat. La plupart des éditeurs en France sont, vous font signer tout et veulent se faire céder tout, alors qu'ils ne vont pas faire grand-chose de tous ces droits, si ce n'est percevoir 50% le jour où une offre se présente. Ils n'iront pas la chercher d'ailleurs. Donc, moi, c'est là-dessus, je pense, quand ça dépend d'où on est, hein, de ce qu'on fait. Quand j'écris un livre de droit, je me fous de mes personnages, très sincèrement. Mes contrats avec mon éditeur juridique, c'est pas la chose qui m'intéresse le plus. Mais il m'est déjà arrivé de faire des polars et d'avoir un polar adapté à la télé. Ben, je sais pas pourquoi, j'ai regardé un peu attentivement mes clauses sur les personnages. Et parce que mon univers, mes personnages, très bien, je vends les droits pour un livre. Ils en feront ce qu'ils veulent ou presque en audiovisuel. Mais moi, sur l'exploitation après pour en faire une série et tout un tas d'autres choses, là, je sais pas pourquoi, je voulais me mêler un peu de la discussion. Donc j'ai bloqué. Voilà, je vais un peu loin aussi, mais à toi de m'arrêter.
Oui, non, mais c'est extrêmement intéressant parce que là, du coup, ça montre bien que l'auteur n'est pas tout seul. Il y a l'auteur et l'éditeur avec qui il signe et que c'est un peu compliqué. D'ailleurs, très souvent, les auteurs, les jeunes auteurs, n'ont absolument pas connaissance de ça. On leur met un contrat sous le nez, ils sont parfois pas forcément capables de le lire ou d'en comprendre les clauses, et surtout, ils sont pas capables de mesurer les enjeux derrière. Et ça pourrait être utile, effectivement, de pouvoir les aider à comprendre un peu mieux ce qui se passe, et ce à quoi ils s'engagent, et évidemment, l'éditeur se garde bien. Mais c'est vrai que le fait de faire signer tout, et ensuite de dire « je prends 50% si autre chose est fait », mais en même temps, c'est l'auteur souvent qui trouve les pistes. Mais alors, que faire ? Parce que quand on a déjà un certain poids, une certaine notoriété, et qu'on dit à l'éditeur « non, moi, ce type de contrat, je n'accepte pas, au pire, je vais aller chez quelqu'un d'autre », là, l'éditeur va être tout à fait disposé à négocier. Mais quand on est un jeune auteur, c'est les tout premiers romans, on n'est pas très connu, on a un peu les mains liées, il y a un petit peu un...
La plupart des contrats sont quand même mal faits. Donc, il faut bien le savoir. Hein. Tout le monde n'achète pas mes modèles ou ne me demande pas de travailler. Donc, c'est très bien. Ça veut dire que la plupart des contrats sont quand même pleins de loups et pleins de manques. Pourquoi ? Parce que la règle, c'est simple. Tout ce que l'auteur ne cède pas expressément, l'éditeur ne l'a pas. Donc, la plupart des contrats ne sont pas à jour. Les modèles de contrats d'édition, même les plus numériques ou les plus up-to-date que vous pouvez recevoir du groupe Lagardère, par exemple, pour prendre le mastodonte de l'édition mondiale et française, moi, j'ai regardé les contrats cette année, ils sont déjà obsolètes de 2 ans, d'après moi, hein, sur un certain nombre d'applications, sur un certain nombre de modes de développement, sur un certain nombre de choses. Parce que la loi dit, tout ce qui n'est pas visé en toutes lettres, expressément, en durée, en mode d'exploitation, en territoire, en langue, etc., etc., est réservé à l'auteur. Tout ce qui n'a pas cédé lui est réservé. La plupart du temps, non, ce n'est pas une négociation, c'est une lecture attentive de son contrat qui permet de savoir où sont où les trucs. Et éventuellement... Moi, je ne m'énerve pas à négocier parce que ça ne sert à rien. Même moi, qui suis à 106 bouquins et qui, je pense, arrive à négocier quelques livres qui se vendent pas mal, je vais m'empailler avec eux. Donc, même moi, je n'ai pas envie d'avoir une mauvaise réputation avec mon éditeur et de m'avoir mon truc bloqué. Alors, je fais un truc tout con. Je raye et je signe et je renvoie. Et vraiment, je ne m'énerve plus à les appeler parce que ça ne sert à rien. La machine, elle est débile. Donc, chez un petit éditeur, c'est se foutre sur la gueule avec un éditeur sympa. Chez un gros éditeur, c'est rentrer dans une machine où le contrat va être bloqué. Donc moi, j'ai mon stylo, hein, je raye, je paraffe à côté, et je mets 3 mots manquants, 3 mots rayés, 1 ligne rayée. J'en fais pas des tonnes, hein, parce que je ne les fais pas chier sur la valoir, je ne les fais pas chier beaucoup sur les pourcentages, je ne les fais pas chier sur les choses essentielles. Moi, je considère que l'éditeur, il doit s'y retrouver sur des choses qui font partie de son cœur de métier. Mais après, et je signe, et puis je renvoie, voilà, bon pour signature. Et la plupart du temps, ça passe. Voilà. Mais c'est juste, par exemple, je fais attention à une chose, dans beaucoup de contrats, apparaît ou parfois... ou n'apparaît pas, ça dépend des choses sur la possibilité de déposer les personnages comme marque. Hein, le droit d'auteur, c'est limité dans le temps. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le droit patrimonial, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Bon, on a du temps pour nous, hein, mais voilà. Le droit patrimonial, c'est éternel. Mais même le droit patrimonial, ça s'arrête quand même. Ça s'arrête Le droit patrimonial, ça s'arrête. Le droit patrimonial, 70 ans après la mort de l'auteur. Or, les maisons d'édition survivent très longtemps avec des personnages, par exemple Bécassine, personnage peu sympathique encore à l'heure de l'égalité des droits, mais enfin bon, qui existe encore, et qui, ou Babar, allez, je prends des trucs un peu anciens, ou Mickey, peu importe, des personnages qui vont tomber dans le domaine public. Alors, la façon de contourner le problème des 70 ans, c'est de les déposer comme marque. Pourquoi ? Parce qu'une marque, vous déposez un personnage, c'est parfaitement déposable, hein, c'est très simple à faire. La marque, il suffit de la renouveler tous les 25 ans, c'est éternel. Si vous le renouvelez tous les 25 ans, ça peut durer des siècles. Donc les grosses maisons d'édition, elles déposent tous les personnages de BD, tous les personnages importants de livres pour enfants, elles les déposent à titre de marque. Ça n'est possible de les déposer que si l'auteur l'a accepté dans le contrat. La plupart du temps, quand tu signes pour un premier roman ou un premier livre, l'éditeur n'a pas l'intention de déposer comme marque dans la minute. Hein. C'est quelque chose qui se réserve le droit de faire, etc., beaucoup plus tard, ou même s'il y a énormément de succès. Donc, moi, ce n'est pas une clause qui permet de faire entrer en guerre tout le monde. Hein. Si tu interdis de déposer la marque, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'intention, en théorie, d'exploiter en premier. Ce qu'ils veulent, c'est sortir le livre paisiblement et puis vendre éventuellement les droits à l'audiovisuel, etc. Donc, il faut faire attention à ça. C'est un truc sur lequel j'ai eu beaucoup de litiges. Un litige pour un truc complètement crétin. Vous me pardonnerez, je ne vais pas le citer d'ailleurs, comme c'est tellement crétin que je vais mettre à dos mes clients, on ne sait jamais. On avait fait une série de livres, de disques, c'était un truc qui allait sur toutes les, qui mangeait de tous les râteliers en même temps, avec un personnage de bébé, d'une crétinerie affligeante, mais enfin c'est comme ça. Mes clients, du côté créateur, on avait fait très attention, parce que ce sont des gens qui ont plein d'idées sur le développement, sur le marketing, sur plein de choses, à ne pas céder les droits d'exploiter en marque, de déposer en marque et d'exploiter derrière. Ça n'a pas manqué. 2 ans après la sortie du truc, qui a été un énorme succès, qui a fait des chansons, des adaptations, des vidéos, des machins, des clips et des bidules, je vois arriver, ça ne manque pas, une exploitation qui n'est pas prévue dans le contrat. Et je découvre qu'effectivement, l'éditeur a déposé le bébé à titre de marque, son nom, sa caractéristique physique. Ils l'ont fait dessiner, ce n'était pas un dessin à l'origine, c'est devenu un dessin, etc., etc., et qu'ils se sont entièrement appropriés. J'ai fait condamner l'exploitation litigieuse et l'éditeur parce qu'il avait vendu des droits qui ne lui appartenaient pas. D'accord ? C'est des droits qui ont représenté 80% des revenus d'exploitation sur le livre et sur ses personnages d'origine. C'est-à-dire énormément d'argent. Il va de soi qu'en plus, ça a été un tel succès que le fait d'avoir tapé sur l'éditeur et fait résilier le contrat nous permet de revendre le personnage ailleurs à des gens qui sont un petit peu plus, on va dire, honnêtes, on va dire. Voilà. Mais donc, c'est ces choses-là sur lesquels il faut venir. C'est pénible, c'est long, c'est un peu compliqué parce qu'il faut savoir le faire, mais ce n'est pas une montagne à réussir à obtenir. Parce que ce n'est pas le premier enjeu quand on signe un contrat pour l'éditeur. Ce n'est pas son premier truc. Les éditeurs de BD sont plus vigilants parce qu'ils savent tout de suite qu'il faut des exploitations, qu'ils vont penser à des exploitations dérivées. Ils vont penser tout de suite à des suites. Ils vont penser tout de suite à une saga qui n'en finit plus. Dans d'autres domaines, même dans la littérature de genre, c'est pas aussi musclé. Je peux citer des éditeurs qui sont très pros, mais même les éditeurs très pros, la machine, elle n'est pas... En réalité, les contrats, ils devraient être remis à jour dans chaque maison pour couvrir tout et se faire céder tout. En pratique, ils ne le sont pas. Donc, entre ceux qui ne sont pas à jour et puis ceux sur lesquels on peut négocier un peu, il reste une marge. Voilà. Pour continuer, hein, vas-y, il faut m'interrompre.
Alors justement, puisqu'on parlait de cette remise à jour des contrats, parce qu'il y a des choses qui n'existent pas, ben on a vu notamment, quand est apparue déjà l'exploitation numérique, ça c'était pas prévu, donc il y a eu parfois des discussions entre les auteurs et les éditeurs, les produits dérivés, et l'arrivée de l'Internet, là aussi va soulever de nouveaux problèmes, puisqu'on va éventuellement trouver des fanfictions. Donc des gens qui vont utiliser des univers qui sont très fans, mais alors du coup, comment se mesure cette création-là ? Si effectivement des gens font des fanfictions qui revendent après, derrière, ils utilisent quand même la création de quelqu'un d'autre, donc comment ça se passe à ce niveau-là ?
La fanfiction, vaste problème. D'abord, le droit patrimonial, il couvre à peu près tout, hein, ce qui fait qu'on ne peut pas, si vous passez outre l'autorisation de l'auteur ou de son éditeur à qui il a cédé des droits, ça s'appelle de la contrefaçon. Si vous faites demain matin une exploitation, quelle qu'elle soit, bénévole ou pas, hein, commerciale ou gratuite, ça ne change rien, la loi est la même. Elle ne prend pas en compte le fait que quelqu'un fasse de l'argent ou pas avec le pillage qu'il fait, en quelque sorte. Hein. La seule possibilité pour un fan ou quelqu'un d'autre de faire quelque chose, à partir d'une œuvre protégée sans demander l'accord, ça s'appelle la parodie, le pastiche et la caricature. Je prends un personnage de quelqu'un et j'en rigole, mais pas méchamment. C'est par exemple mon ami Gordon Zola, qui fait des trucs avec Moulinsart et Tintin. Alors, il fait le... C'est assez drôle, mais voilà, c'est vol 747, Port Sydney, enfin, Port Sydney, c'est plein de jeux de mots. On s'est fait attaquer par Moulinsart, hein, évidemment, on s'est payé 4 ans de procès, 5 ans, on a gagné. Mais ça a été compliqué, parce qu'on est dans les critères stricts de la parodie du pastiche. Un, on pique, d'accord, mais il n'y a pas de confusion chez le lecteur. C'est-à-dire, personne ne prend un album de Gorgonzola pour un vrai album de Tintin. Personne ne le confond. C'est-à-dire... Même une grand-mère qui veut faire un cadeau pour son petit-fils arrive à comprendre que c'est une blague et que ce n'est pas un vrai album de la série. Donc ça, c'est un critère important pour les juges. Et le deuxième critère, c'est que, certes, on rigole, parce que, et on est un peu méchant, parce que c'est le principe même de ce genre, hein, la parodie, le pastiche, etc. Mais on n'est fondamentalement pas contre l'œuvre. D'accord ? On ne trouve pas que c'est nécessairement, même si Hergé était un nazi, etc., tout ce qu'on veut, peu importe. Voilà, on ne démolit pas Tintin, parce que c'est quand même un adorateur de Tintin qui s'amuse à faire, à détourner les personnages. C'est les deux critères. Si en revanche, on avait fait, comme a été fait il y a quelques années, la vie sexuelle de Tintin, qui là est très très loin de l'idée que Hergé se faisait de discours sur la jeunesse et de plein de choses, interdite immédiatement parce que ça posait un problème d'atteinte, véritablement de dénigrement de l'œuvre en tant que telle. Bon, c'est un peu, il y a une petite marge de manœuvre. La fanfiction, elle n'est pas dans la parodie, le pastiche et les caricatures. Elle est dans le fait de reprendre la même chose, avec des moyens souvent plus amateurs, mais quand même parfois de plus en plus professionnels, de plus en plus denses, pour prolonger une œuvre, c'est-à-dire véritablement remplacer ce qui devrait normalement être fait par l'auteur ou à son initiative, avec un éditeur ou avec un producteur. Elle pose un vrai problème en ce sens. Elle n'est même pas dans les petites autres limites qui sont le droit de citation. Le droit de citation, c'est illustrer et emprunter 3 lignes ou 2 paragraphes, 1 case. On n'est pas du tout dans ça, parce que la fanfiction, elle produit un épisode supplémentaire. Donc, elle est totalement illégale, soyons bien clairs. Le seul truc, c'est simplement qu'elle n'est pas beaucoup poursuivie, parce que vous tapez immédiatement une campagne sur Twitter, sur Insta, sur machin, sur tout, dans laquelle vous passez pour un horrible censeur. Moi, je pense néanmoins, j'en ai attrapé 2 ou 3, parce que malgré tout, le droit d'auteur, c'est le salaire de l'auteur, c'est-à-dire c'est la seule façon de ne pas être obligé d'aller à l'usine tous les jours et de pouvoir continuer à travailler, à écrire, entre guillemets, sans être obligé de faire autre chose. C'est malgré tout, je ne pleure pas pour les éditeurs, je pleure pour les auteurs, hein. Je ne pense pas qu'il soit extraordinairement bien payé, ni même d'ailleurs aux imaginales. Hein. Il y avait un papier hier. Donc, voilà, pour dire les choses. Donc, je n'ai pas la sensation d'être vraiment dans le rôle du méchant quand je poursuis une fanfiction au nom d'un auteur et éventuellement de son éditeur et de son producteur. D'autant plus, sincèrement, que si c'est un truc amateur, sympathique, avec des gens qui, par ailleurs, non pas demandent l'autorisation, mais informent que les choses sont à peu près nettes et à peu près claires et qui créditent correctement, etc., tout va bien. Mais si c'est des gens qui ont fait, comme la dernière fanfiction à laquelle je m'en suis pris, qui ont levé un budget de 500 000 euros, on n'est plus dans de la fanfiction amateur, hein. on est dans les moyens d'un moyen métrage. Hein. On n'est même plus dans le court métrage, hein. On est dans les moyens d'un long métrage à l'économie, mais un long métrage. Donc on est dans autre chose. Et on est dans quelque chose qui en plus suscite pour celle que j'ai commencé j'ai harponnée, qui a été arrêtée, elle avait commencé à susciter 2 millions de visionnages. À 2 millions de visionnages, on n'est plus dans une pochade, hein. On est dans du business. Où je ne m'y connais pas. Donc, voilà. Par ailleurs, les intéressés, heureusement, je les ai jugulés de telle façon qu'ils n'ont pas crié au martyr. Mais parce que s'ils criaient au martyr, je les cognais 2 fois plus. Donc, c'était simple. Il y a un moment, parce que la vraie difficulté, c'est ça. C'est attraper des gens et leur dire le droit d'auteur. Vous savez, ce n'est pas un truc de salaud. Hein. C'est juste une chose qui a été inventée par la philosophie des Lumières, hein, qui permet à l'auteur d'exister. Donc, respecter le droit d'auteur n'est pas un truc, comment dire, n'est pas la mort du créateur de gauche pour qui on a beaucoup de sympathie. C'est juste essayer, créateur, nous, de survivre un tout petit peu. Donc je leur ai dit, voilà, le tarif, c'est ça. On s'arrête là. Vous rempliez votre truc, ça s'arrête, c'est interdit, etc. Je vous fais pas... J'exécute pas de condamnation sur vous. Mais si vous bougez d'une oreille sur Internet pour dire que je suis un salaud, eh ben vous êtes fini. Vous aurez une dette aux fesses jusqu'à la fin de vos jours. Et donc, la fanfiction, elle s'est arrêtée et le buzz n'a pas démarré. Mais c'est très délicat. Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrête les gens qui veulent arrêter une fanfiction, c'est ça. C'est l'espèce de pétition sur Internet où dès qu'on veut faire respecter juste le droit d'auteur, vraiment, on passe pour un horrible profiteur. Voilà. Donc, c'est notre difficulté. En droit, ça marche. En politique et en scandale, c'est compliqué.
Oui, c'est un peu le problème du pouvoir de l'Internet avec, effectivement, il suffit qu'il y ait un buzz qui se fasse et puis l'auteur, il est fini. Il a une sale réputation. Et donc, finalement, on fait un peu le monde à l'envers parce qu'on exploite la création d'un autre, on se fait de l'argent dessus et l'autre n'a pas le droit de répliquer. Bref. Alors, moi, je voulais aussi poser une question où certains auteurs se sont posé la question lorsqu'ils voulaient publier, notamment aux États-Unis, où on leur proposait un copyright. C'est-à-dire qu'on leur disait qu'on va copyrighter l'œuvre. Alors, dans mon souvenir, c'était quelque chose, effectivement, sur une protection plus en tant que marque et non pas en tant qu'œuvre, mais avec des droits beaucoup plus limités aux États-Unis.
Oula, je veux bien faire un cours de droit américain, mais on va... voilà, parce que là, il y a beaucoup d'idées, Sylvie. C'est très bien de bien connaître cette matière et de la potasser, mais voilà, il y a une ou deux choses à préciser. Oui, oui.
Donc, c'était juste, en fait, pour peut-être, sans forcément rentrer dans le détail, donner quelques conseils sur le fait de, voilà, est-ce qu'il faut accepter ou pas, et qu'est-ce qu'on peut proposer pour contrer ça, en disant, non, moi, je préfère appliquer le droit
d'auteur. Je vais mettre fin à deux, trois usures. Le copyright, c'était un système qui était obligatoire aux États-Unis jusqu'à 25 ans, à une époque où les États-Unis ne reconnaissaient pas les autres systèmes juridiques de propriété littéraire artistique. Il fallait aller au bureau du Congrès à Washington, au bureau de la bibliothèque du Congrès à Washington, et déposer l'œuvre. C'était un formalisme obligatoire, obtenir un copyright, sinon une œuvre n'était pas protégée. C'était le droit américain. Il y avait un formalisme. Si vous dire qu'en France, il n'y a pas de formalisme. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il suffit d'avoir créé, de le dire, ou d'écrire. Et puis de pouvoir prouver qu'on l'a fait à tel moment le premier pour que l'œuvre soit protégée, protégeable en tout cas. Aux États-Unis, il y avait un système qui ressemble un peu aux marques, qui ressemble aux brevets, c'est-à-dire nécessiter un dépôt. Depuis 1989, les États-Unis ont accepté un autre système de droit dans lequel le copyright n'est qu'un luxe, qui ne sert à rien. C'est-à-dire que l'œuvre, elle est protégée avec ou sans copyright au sens du dépôt. En revanche, l'usage, c'est de continuer à mettre un petit C dans un rond qui n'est pas un truc juridique, hein. Qui est juste un usage de typographie et de présentation, comme la première de couverture ou la couverture. Ça n'est rien d'autre qu'un usage du métier. Et cet usage, donc, il y a deux choses à distinguer. Déposer un copyright aux États-Unis, ça ne sert pas à grand-chose. C'est juste pour se faire plaisir et dépenser de l'argent. Donc, ça ne sert à rien ni pour l'éditeur ni pour l'auteur. Mettre un copyright sur un livre ou sur un truc qu'on met sur Internet ou sur quoi que ce soit, c'est en revanche utiliser une technique psychosomatique très bête qui consiste à mettre un panneau « Attention, chien méchant ». D'accord ? Si vous mettez un copyright sur tous vos trucs... Eh bien, vous aurez beaucoup moins de pillards et de gens qui passent outre que si vous n'en mettez pas. C'est con, mais la nature humaine, elle marche avec attention chez méchant. Hein, le postier, quand il y a marqué attention chez méchant ou un visiteur, il sonne et il ne franchit pas la barrière, il attend deux secondes. S'il n'y a pas de panneau, éventuellement, il rentre. Ça marche de la même façon. Donc moi, le copyright, vous l'utilisez, mais en sachant que ça n'a pas plus de valeur que ça, ça ne vous ajoute rien en droit. Ça rajoute juste un signal qui dit « Coucou, c'est une œuvre protégée. Coucou, c'est un personnage protégé. » Donc, mettez des copyrights, n'en mettez pas trop parce que vous passerez pour un dingue paranoïaque. Hein, voilà, qu'on dit, putain, il crée peut-être bien, mais enfin, quand même, ça siphonne beaucoup. Hein, il y a des copyrights, il y a des droits réservés partout. Moi, je le mets quand je fais tourner des projets. En ce moment, j'ai un synopsis de films, même de séries, si tu vois bien, qui tournent. Je suis un peu parano. Mon métier, c'est quand même d'être là-dedans. Les manuscrits volés chez l'éditeur et pillés, ça n'existe pas. Vous avez un manuscrit chez Gallimard, ils ont autre chose à foutre que de vous publier en douce. Hein. Ils ont reçu suffisamment tellement de mauvais manuscrits. S'ils en reçoivent un bon, sincèrement, ils préfèrent vous éditer que de vous le piquer. Hein. Donc ça n'existe pas. Ce qui existe en revanche, c'est dans l'audiovisuel, dans le numérique. Là, en revanche, des gens qui oublient qu'un projet est arrivé par ceci, par cela, et pensent que parce qu'il est sur la table ou sur l'ordi, on peut l'utiliser. Hein. Et là, c'est une difficulté. Donc pour moi... Là, on met des baselines avec en petit caractère, en corset ou 8, peu importe, avec marqué copyright et votre nom, ou droit réservé, peu importe, vous foutez des petits trucs qui parlent. Ça permet quand même d'éviter de la casse toute bête. Voilà. Mais je ne ferai pas plus. Voilà. Faut être dans la bonne mesure. Tout dépend de ce que vous faites, tout dépend de ce que vous faites avec votre projet. S'il est parti pour être publié en moins de 2 minutes, tout va bien. Hein. Si en revanche, vous devez le faire tourner de façon un petit peu confidentielle, mais quand même large, et le diffuser à quelques personnes dans le milieu... Mettez un copyright, ça ne mange pas de pain. Mais mettez pas en énorme arrêt de mort pour tout le monde, etc. Vous allez juste être... voilà. Personne ne va vous lire en disant que c'est le cinglé qui revient.
Alors, on parlait justement du fait que le droit d'auteur donc, est reconnu dès lors que la création artistique a été faite. Mais, évidemment, il va falloir prouver. Quels sont les moyens simples que peut avoir un auteur de prouver qu'il a créé telle chose à tel moment ? Par exemple, il a écrit un manuscrit où ce manuscrit, il est dans des tiroirs parce qu'il n'a pas réussi à le faire publier à droite à gauche. Et puis, 4 ans ou 5 ans après, il a une opportunité auprès d'un éditeur. Et entre-temps, quelqu'un d'autre a publié quelque chose qui ressemble ou a piqué l'idée originale. Donc, lui pourrait dire, oui, non, moi, j'avais écrit avant. Comment on peut faire pour prouver qu'on a fait ça à tel moment ?
Alors, ma chère Sylvie, c'est très simple. On a inventé une chose merveilleuse depuis 15 ans qui s'appelle le mail, qui s'appelle un email. Un email, comme dirait mon ami Gabriel Matzneff. Vous vous envoyez un mail avec votre création. Vous ne le faites pas tous les jours parce que ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait déjà quelque chose d'un peu mis en forme. Un début de note d'intention, un synopsis, un bout de manuscrit, ce que vous voudrez, des dessins. Un embryon de commencer, de crayonner, je m'en fous, peu importe à quoi ça ressemble, du moment que ça a pris forme. Ce qui est protégeable, pardon, encore une fois, ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas l'idée d'une merveilleuse saga qui se passe sur la planète, je ne sais pas quoi. C'est, voilà, la planète, elle est là. Mon personnage, il s'appelle Bidule. Voilà leurs aventures. Et je le mets sous une forme ou une autre. Soit je le raconte, je l'enregistre. Soit je prends des notes, soit je l'écris, je le tape, peu importe, je le dessine. On s'en fout, du moment que ça prend forme. C'est ça qui est protégé. Protégé, et pour le prouver, je me l'envoie à moi-même. Pourquoi ? Parce que Big Brother, vous le savez assez, fait qu'il y a 18 personnes, 18 machines qui vont entre le moment où vous envoyez le mail et au moment où il arrive une seconde, moins d'une microseconde plus tard sur votre propre boîte mail, il est gardé en copie chez 18 serveurs. Eh bien, ce qui est formidable, c'est que plus personne aujourd'hui ne conteste le fait qu'un mail a bien été envoyé. Ça fait 10 ans que je n'ai pas vu un type en face en train de dire « Prouvez-moi que le mail a bien été envoyé ». Pourquoi ? Parce qu'on fait des réquisitions en moins de 24 heures auprès des opérateurs. Et je peux vous dire que ça glace le sang parce que c'est rien les trucs de Facebook et de Cambridge Analytica à côté, Tout est enregistré, tout est conservé, tout, vos appels, vos SMS, vos mails, tout, ce qui est quand même formidable. Et donc, on trouve en 2 secondes. Donc, évidemment, quand vous envoyez un mail à vous-même, vous les mettez avec un drapeau de couleur, vous mettez ce que vous voulez pour dire ça, c'est mon manuscrit à moi-même que je protège, juste, voilà. Moi, je le fais toutes les semaines à peu près. Toutes les semaines, je m'envoie. Alors, quand je veux en plus sauvegarder sur un autre ordinateur qui est à mon bureau, je le fais automatiquement. Mais en plus, je le fais avec des balises pour bien les repérer dans mes milliards de mails, pour bien repérer qu'à tel moment que je me suis envoyé mes trucs. Il y a longtemps, quand je débutais, il y a 25 ans au barreau, on faisait des recommandés à soi-même. C'est ça. Et on disait bien au mec qui quand même ne comprenait rien, au poète pour la 28e fois, tu l'ouvres pas quand tu te reçois ton corps recommandé. Parce que ça ne vaut que si tu n'ouvres pas l'enveloppe. C'est encore intact le jour où on va chez le juge. Aujourd'hui, vraiment, le mail suffit. On pouvait faire des choses luxueuses qui ne servent à rien. Dépenser une enveloppe solo à l'INPI où on met sur 7 feuilles dedans. On pouvait déposer une disquette avec des trucs. On peut aller dans les minutes d'un notaire. Je peux vous inventer toutes sortes de choses. Vous pouvez aller à la SGDL, la Société des gens de lettres. Ils vous accepteront et vous prendront 250 euros ou je ne sais pas combien pour enregistrer votre manuscrit. Ça ne sert à rien. Un mail. Et vous le gardez précieusement. Et puis voilà, pour vous y retrouver, sincèrement, vous en faites un de temps en temps, chacun son rythme. Moi, je fais 30 000 signes par nuit, donc je me les envoie toutes les semaines. Mais chacun son rythme de création. Regardez ça. Ça suffit. Comme preuve. Après, la question, c'est le rapport de force, les muscles, etc., pour monter au créneau. Mais entre le copyright que vous mettez dessus, le fait de vous envoyer le mail, normalement, vous êtes déjà beaucoup plus armé qu'on ne l'était il y a 20 ans quand on ne faisait rien. Ou presque.
Et alors, est-ce qu'il existe des ressources, notamment pour les jeunes auteurs qui ne sont pas très... Alors bon, évidemment, il y a les livres.
Non, mais elle a mon téléphone, je vais lui rendre.
D'accord.
Il tombe.
Donc, il y a évidemment les livres sur le droit d'auteur, etc. Mais est-ce qu'il y a des sites internet avec des conseils ? Est-ce qu'il existe finalement des choses en direction des personnes qui peuvent être susceptibles d'écrire, qui ne savent absolument pas, en plus, et qui n'ont pas fait d'études de droit ou qui ne connaissent pas le droit ? Quelles sont les ressources qu'ils peuvent trouver ?
Des ressources en ligne qui ressemblent à rien et qui lisent tout et n'importe quoi, il y en a plein. Donc, on va être très clair, vous allez sur le site de la Société des gens de lettres, par exemple, à laquelle j'appartiens et dans laquelle vous trouverez des tas de choses. Parce que ces gens sont structurés pour la défense des auteurs et des écrivains. Mais vous pouvez aller regarder ma chronique juridique sur Livre Hebdo, livrehebdo.fr. Opinion, c'est blog. J'en suis donc à 25 ans de chronique, à une fois par semaine à 7000 signes. Je pense qu'il y a un peu de matière. Ça a couvert quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Il y a un moteur de recherche, il est gratuit, ça fonctionne. Accessoirement, je mets les mêmes textes auxquels vous seriez bloqué parce que de temps en temps, pour une pub ou je ne sais pas quoi, il bloque, je ne sais pas. Il y a un truc qui s'appelle la Grande Bibliothèque du Droit, lagbd.org, dont je suis le patron, qui est entièrement gratuit. C'est du Wikipédia, enfin c'est de la licence libre sur la donnée juridique, dans laquelle je mets, c'est une encyclopédie juridique en ligne gratuite. Voilà, c'est tout simple, contributive, collective, tout ce que vous voudrez, participative. mais dans laquelle je modère les contenus scientifiques pour être sûr qu'il n'y ait pas de conneries. Et par ailleurs, j'y contribue moi-même et j'y mets tous mes textes sur le droit d'auteur. Voilà. Donc, normalement, vous allez sur ça, vous trouvez. Et puis, si vous êtes vraiment pas bon et pas geek ou pas je sais pas quoi, bah, vous attendrez que sorte mon folio l'année prochaine qui s'appelle Le juge et l'écrivain. Hein, 600 pages en folio qui devrait normalement pas être trop cher, dans lequel il y aura à peu près tout ce qui peut arriver comme emmerdement à un auteur et tout ce qu'il doit faire. Le juge et l'écrivain. Voilà. C'est sorti janvier ou février 2019, je ne sais plus, voilà, chez Folio. Et puis vous pouvez acheter mes livres de droit, mais ils sont chers et un peu techniques. Et surtout, je les reprends dans des chroniques gratuites à côté. Voilà.
D'accord. Et lorsque l'auteur se retrouve un petit peu coincé, donc il doit attaquer, comment ça se passe matériellement? Alors bon, ça, c'est un peu pour expliquer. Il faut qu'il aille voir un avocat, qu'il intente une action. Quel budget faut prévoir? Comment ça se passe concrètement?
D'abord, on ne vient pas chez l'avocat directement sans avoir essayé de régler le problème un peu soi-même. Hein. Quand même, la plupart du temps, c'est des questions de bon sens. Et sincèrement, par exemple, un cas classique, allez, au printemps, c'est l'auteur qui me dit « j'ai pas reçu mes comptes hein, » de mon éditeur. Tu les as demandés? Ah ben non. Évidemment, la loi, normalement, l'éditeur doit l'envoyer spontanément. Si vous pensez que tous les éditeurs les envoient spontanément, même moi, je dois en réclamer. Hein. Donc, c'est vous dire que vraiment, il y a des gens qui n'ont même pas compris que j'ai des factures de l'autre côté comme avocat. Hein. C'est les mêmes. Et je suis obligé de leur écrire de temps en temps pour leur dire « vraiment, vous savez, vous devez le faire, c'est la loi. Bon, envoyez mes comptes. » Les mettre en demeure, mais même, envoyer un mail simplement au service comptable, la plupart du temps, ils sont à la rabasse, ils vont finir par le faire. Donc, ça ne sert à rien d'aller saisir un avocat et de... Voilà, moi, je suis ravi de rencontrer des auteurs, mais enfin, mon emploi du temps est limité. Et puis, facturer un rendez-vous pour dire à quelqu'un qui devrait commencer par écrire un courrier, ça n'existe pas. Donc, commencez par écrire pour les problèmes simples, hein. Les choses simples. En revanche, vous embarquez pas dans la défense de vous-même quand ça devient un tout petit peu technique et compliqué, parce que là, vous allez commettre des erreurs. C'est le contraire. Vous allez partir sur des voies qui sont fausses. Exemple, réclamer un préjudice en le chiffrant. Vous allez demander 1 000 euros d'indemnité correspondant à je sais pas quoi, alors que en réalité, si vous devez aller en justice, ça va vous coûter bonbon. Donc, il vaudra mieux demander 10 000 euros pour s'y retrouver, parce qu'on est plage d'un AFNA à Marrakech, c'est-à-dire que le premier prix n'est jamais le bon. Donc, il faut savoir les choses simples que l'éditeur doit vous rendre. J'en sais rien, je sais pas, vous soumettre les épreuves, envoyer les comptes, sortir dans les délais, imparti au contrat, le livre qui normalement est prévu pour publier dans un c'est marqué ou dans le contrat. Tout ça, c'est faisable. Ensuite, les choses un peu alambiquées, il faut aller prendre le conseil d'un professionnel. Combien ça coûte? Ça coûte rien quand vous prenez rendez-vous avec un vrai dossier parce qu'on ne vous facture pas le premier rendez-vous, on voit, et après on fait un devis en fonction. On n'a pas le droit de se payer au pourcentage. Hein. Ça, c'est la loi française et la déontologie. Puis moi, si je faisais que ça au pourcentage, j'aurais vraiment du mal à payer mon loyer, mais les salaires et de mon équipe, et même mon propre, ma propre électricité. Tous les arrangements sont possibles. Un petit forfait, un intéressement au résultat. Il y a des gens qui ont les moyens par ailleurs de payer, puis on s'y retrouve. Moi, je n'aime pas du tout emmener des gens dans des croisades qui ne servent à rien. Les croisades de principe, c'est bien, à condition qu'on s'y retrouve économiquement et qu'on ait les moyens de la croisade de principe. Sinon, on fait de la militance, mais c'est autre chose. Voilà. Et puis on peut retrouver la Société des gens de lettres. Moi, je travaille avec eux. Je les cite parce que je défends gratuitement des auteurs en accord avec eux parce qu'on considère que c'est un cas exemplaire et qu'il faut y aller. Et que l'auteur va se faire... Il n'a pas les moyens. C'est un poète, ceci. Ou même un auteur normal. Et un auteur normal, ça n'a pas les moyens, pour faire simple. Parce qu'un avocat, ça coûte cher. Voilà. Je ne vais pas vous donner mon taux horaire. Ça sera indécent. Mais voilà. Donc, on trouve... Il y a plein de moyens. Un auteur, normalement, en France, c'est pas totalement démuni. S'il a construit un peu son dossier, s'il accepte de travailler un petit peu, c'est-à-dire de ne pas foutre le bordel et faire au moins 3-4 photocopies pour faciliter la vie de son avocat, très sincèrement, il arrive à trouver un avocat compétent et pas trop cher. Attention, les avocats spécialisés, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Nous sommes 67 000 au barreau français. Je ne sais pas pourquoi, mais les seuls spécialistes réels sont à Paris. Mais enfin, le mail, le téléphone fonctionnent. Hein, il n'y a pas besoin de se voir tous les deux jours pour lancer un dossier et pour appeler un avocat à Paris. Voilà, il y a une nomenclature, vous allez sur le site du barreau de Paris. Les spécialistes en propriété intellectuelle sont référencés. C'est moi qui suis président du jury, donc autant vous dire que le tri est fait. Pour attribuer à mes confrères le label, il y en a au moins une soixantaine. Ça suffit, il y en a qui sont vraiment, vraiment pas chers. Et puis s'ils sont débordés, on trouve toujours quelqu'un, etc., etc. Et puis si on est en conflit d'intérêt parce que je représente l'éditeur ou X ou Y, on trouve toujours le moyen d'envoyer chez un confrère valable, honnête et pas cher. Voilà. Moi, je ne vois pas, à part un auteur maudit qui décide de se faire du tort à lui-même et qui ne fait vraiment rien, qui ne veut vraiment pas aider son avocat du tout, même sans lui fournissant le minimum, le vrai martyr, ça n'existe pas. Après, le dossier est solide, on gagne, on ne gagne pas, c'est une autre question. Mais voilà, on trouve. En France, heureusement, on aime les auteurs et les écrivains. Et on arrive dans la patrie du droit d'auteur encore à faire valoir ses droits. Celui qui ne fait pas valoir ses droits, qui ne fait, n'obtient pas gain de cause ou qui n'arrive pas à obtenir ses comptes ou je ne sais pas quoi, c'est celui qui, de toute façon, ne fait rien du tout et considère que tout doit venir à lui, le succès automatiquement, parce que la muse l'a visité. Le problème, c'est que la muse le visite, mais que les autres, eh ben, il faut les mobiliser un peu. Voilà. Après, il y a des choses sur lesquelles, dans les deux problèmes sempiternels qui arrivent, c'est d'un côté les comptes. Les deux classiques, c'est « j'ai pas reçu mes comptes ». Effectivement, ça, c'est anormal. Il faut s'en occuper. Et si c'est pas fait, il y a des clauses de résiliation aujourd'hui dans tous les contrats. C'est la loi. Le contrat tombe. Un auditeur qui rend pas les comptes et qui triche, ça existe. J'en connais. Eh bien, il se fait allumer, il perd son contrat. Et son auteur qui a un peu de succès ou un peu de talent va ailleurs. On trouve en France. La chose, en revanche, sur laquelle c'est très difficile, c'est par exemple l'exploitation en librairie. Le fait de trouver son livre ou pas à la gare d'Épinal, TGV. Bon. L'auditeur n'a qu'une obligation de moyens, pas de résultat. C'est-à-dire qu'il doit s'efforcer de commercialiser normalement, mais vous ne pouvez pas le faire condamner parce qu'il n'a pas mis votre livre à la gare d'Épinal. C'est ça, là, c'est la difficulté. Et là, c'est compliqué à prouver que l'éditeur exploite correctement. Ceci dit, il y a des usages, il y a des critères, etc. Et on arrive à peu près à savoir si un éditeur a fait son boulot ou pas, ou s'il peut s'améliorer. Et puis, il y a des éditeurs qui ne font vraiment rien. Et ceux-là, il faut les quitter parce que ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, moi qui ai longtemps été contre l'auto-édition parce que c'était le sac aux arnaques, parce que les gens se faisaient avoir par des imprimeurs, par des maisons d'édition fictices et compagnie, je suis le premier à considérer que quand on ne trouve pas un éditeur correct, etc., pour des tas de raisons, il faut s'auto-éditer. Il y a des tas de moyens de le faire en numérique et en papier. Ça existe. N'allez pas voir une entreprise à la con supposée d'édition pour le faire. Pardon, mais alors là, les GAFA fonctionnent. On peut leur faire tous les reproches du monde. Voilà. Moi, je suis en train de remettre en diffusion sur Kindle les livres que j'ai écrits qui sont épuisés, parce que j'ai trois éditeurs qui ont fait faillite, des petits éditeurs divers. Mes livres sont nulle part. Je ne vais pas les reprendre et les remettre chez un autre éditeur. Ils ont déjà vécu. Et en même temps, ça m'emmerde que plus personne puisse les trouver. Voilà, j'en suis même racheté il y a l'autre jour sur Amazon un exemplaire de mes livres pour l'offrir à quelqu'un. Donc ça va, je les fous en ligne. Et puis, ça en rapportera peut-être quelques sous, mais au moins, mes livres existeront. Ça sera mon petit péché d'orgueil. Voilà, ça fonctionne. Voilà, pardon, je viens sur les choses qui n'ont rien à voir avec le droit des personnages, mais voilà.
Oui, mais bon, on est un petit peu sur le droit d'auteur. Je pense que c'est des informations qui sont également intéressantes. Alors, justement, par rapport à cette exploitation, puisque le droit d'auteur, ce droit patrimonial, il reste valable tant que l'éditeur exploite l'œuvre. Et là, il y a une question qui se pose, à savoir que si on a cédé les droits, et notamment les droits sur l'électronique, on ne trouve plus le bouquin nulle part. Mais il y a une version électronique qui existe où l'éditeur dit « Ah ben non, mais j'exploite toujours parce que éventuellement, si quelqu'un me commande, et où ça devient une diffusion complètement confidentielle, mais où ça permet à l'éditeur de garder les droits. Quel est le recours de l'auteur par rapport à ça ?»
La loi a changé. La loi a changé, elle prévoit de façon assez détaillée aujourd'hui les questions d'exploitation en papier, les questions d'exploitation numérique. Elle articule les deux. Elle considère, heureusement, elle a évolué pour considérer qu'une exploitation numérique ne vaut pas pour garder les droits papier ad vitam aeternam. Il y a des taquets, il y a des délais qui sont aménageables par contrat, donc il faut lire les textes et lire vos contrats, sincèrement. Au-delà de ça, l'exploitation, ça pose un problème, mais on peut reprendre ses droits, sincèrement, au bout d'un moment. C'est long, l'éditeur a généralement un an à deux ans pour pouvoir réimprimer, remettre sur le marché et compagnie, mais enfin, ça finit par arriver. Et on y arrive. C'était beaucoup plus compliqué il y a quelques années, où c'était très, très, très confus. Et en plus, moi, mon problème, c'est pas tellement l'éditeur qui exploite plus les livres. S'il exploite pas vraiment et qu'il n'y a plus rien, et qu'on ne trouve plus du tout le livre, sincèrement, il perd les droits. Si vous faites valoir vos droits, c'est un courrier recommandé, c'est pas très compliqué à faire. La difficulté derrière, pour moi, c'est pas tellement ça aujourd'hui, c'est plutôt les livres qui sont vendus sur Amazon, par exemple, qui sont des livres d'occasion, en devant les livres neufs. C'est-à-dire que ni l'auteur, là, ni l'éditeur, pour le coup, ne touche plus que ce soit, quoi que ce soit, puisque le livre existe, certes, mais ce n'est plus que des exemplaires de seconde main qui sont revendus par la machine. Et ça, c'est une vraie difficulté économique, à la fois pour l'édition française et pour les auteurs aujourd'hui. C'est-à-dire que, sincèrement, moi, je regarde la plupart de mes livres. Ils sont disponibles en neuf sur Amazon, mais juste en dessous, en occasion, en moins de 2 minutes, revendus par les services de presse, revendus par des lecteurs. C'est très bien de pouvoir donner une seconde vie, que les objets ne soient pas avec une obsolescence programmée, y compris les livres, et s'arrêtent, etc. La difficulté, c'est que de l'autre côté, le mécanisme du droit d'auteur, c'est néanmoins d'être associé à chaque vente ou même à la lecture publique, à la mise en prêt en bibliothèque, et que là, on a un gouffre géant. C'est 17% aujourd'hui des ventes d'exemplaires papier en ligne. c'est beaucoup et ça monte de trimestre en trimestre. Donc pour moi, le problème, il est plus là. C'est-à-dire ton livre est disponible, ton éditeur ne fout plus rien et de fait, il est démobilisé puisque les exemplaires vendus sont toujours ceux qui ont déjà été vendus trois fois sur lesquels plus personne ne touche rien. Et voilà. Et il s'est proposé de façon prioritaire par rapport à l'exemplaire neuf. Voilà. Ça, c'est mon petit souci autre qui est en train d'arriver à côté. Hein. Il ne faut pas lâcher ses droits, il faut veiller à ce que les livres soient exploités, mais en plus, il faudrait arriver à régler ce problème. Mais ça, à un moment, seul ou le syndicat de salle d'édition, la société des gens de lettres et groupes d'auteurs, le comité parlementaire des écrivains s'en empare et monte au front, soit le législateur, plutôt que de faire chier la SNCF, ferait bien de s'en occuper. Point de vue personnel, pardon, en ayant réussi à prendre le train hier, en me demandant ce qu'on va se dire.
Non, mais c'est vrai que c'est un véritable problème. Alors, on est bientôt au terme de cette conférence. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ?
Il faut parler, alors le micro, on l'a là, mais il ne va pas jusqu'au bout.
Oui, parce que c'est,
les auteurs savent donner de la voix.
Oui, il ne fonctionne pas, et en plus, on n'a peut-être pas assez longueur de fil.
Allez. Il faut se lever pour porter. Ah, il est timide. Bon.
Alors, bah, c'est pas pire, je dirais. Donc, un auteur qui débute inconnu.
Voilà, c'est ça. Il crée une histoire dans laquelle il y a des personnages. L'histoire est une sorte de parodie, mais pas de quelque chose en particulier. Et parmi ces personnages, il y a les personnages sont un peu des. Certains sont des stéréotypes, des types de barbares, des choses comme ça, mais avec des noms qui sont devenus. En fait, est-ce qu'on risque, si on collisionne le nom avec quelque chose qui existe déjà, sans qu'on sache ou quoi, est-ce qu'on risque de se faire attaquer?
Alors, cher ami, le fait d'utiliser des noms qui existent sans qu'on le sache, ça n'existe pas. Très peu. Ou alors, si vous utilisez Dupont, vous dire des noms très. Ou le mien, Pierrat, qui est un nom des Vosges. Vous voyez, il y en a 500 dans l'annuaire à Saint-Dié. Donc, voilà. Personne ne vous emmerdera parce que des Pierrat, il y en a tellement dans le coin. Si vous vous situez votre nom dans les Vosges, si en revanche vous prenez un nom très spécifique, généralement, vous le savez. C'est pas le hasard. C'est que vous voulez venger vos comptes. Faites gaffe, il y a des critères. Ça s'appelle la diffamation, l'atteinte à la vie privée. Il y a tout un tas de choses. Vous avez le droit d'utiliser des noms de gens qui existent à condition de ne pas les mettre dans des situations préjudiciables. Ah, c'est un jeu de mots qui existe déjà. Il n'y a aucun moyen de savoir. Il n'y a aucun moyen de savoir. Alors, il n'y a aucun moyen de savoir ce qui existe déjà, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, une création, elle est protégée à partir du moment où elle existe. Il n'y a pas un registre, il n'y a pas un dépôt, il n'y a pas un formulaire. Il n'y a pas un endroit où on peut consulter et vérifier tout ce qui a déjà été créé. Voilà. Néanmoins, sincèrement, vous tapez les noms très originaux que vous avez faits en jeu de mots sur Google. Je ne sais pas pourquoi, mais ça sort aujourd'hui assez vite. Et si quelqu'un a déjà imaginé le même jeu de mots avec le même personnage ou le même truc ou le même nom. Hein. C'était très compliqué il y a quelques années parce qu'on n'avait aucun moyen. Maintenant, vous googlisez. Voilà, je vous le dis. De la même façon que moi, quand je surveille des créations où je pense que je vais être un peu pillé pour des trucs comme ça, pour des choses que je fais, je mets des alertes Google sur des mots très spécifiques que j'ai inventés. J'ai fait un livre de concepts sur la culture, je vous passe le détail, ça n'a aucun intérêt, mais dans lequel j'ai fait des néologismes sur des mots très spécifiques hein, que j'ai vraiment produits. Je les ai mis sur Google en alerte, c'est-à-dire chaque fois que quelqu'un les utilise sur Google, je reçois un mail. Soit c'est des gens qui me citent correctement, et qui sourcent, soit c'est des gens qui me piquent. Bah, ceux qui sourcent, tout va bien. Ceux qui me piquent, ils ont droit à un scud dans les 24 heures. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ensuite, ils arrêtent. Mais voilà. Donc, vous googlisez les noms des autres, vous les trouverez. Et puis, si vous inventez des choses extraordinaires, vous voulez qu'elles soient protégées, ou en tout cas que personne ne s'en empare sans vous citer correctement, vous mettez en alerte Google. Ça prend 2 minutes hein, à faire sur Google. Vous allez alerte, créer une alerte, et vous mettez les quelques mots. Si vous mettez barbare, vous allez avoir 150 000 mails par jour. Hein. Si vous mettez un nom spécifique que vous avez inventé, très bien. Il y avait une autre question oui. Quelque part. Voilà.
Thank you.
Oui, vous êtes vous-même dans l'illégalité, mais si vous faites une lettre de collectif à Amazon, sincèrement, il y a une direction juridique aujourd'hui qui réagit assez vite hein, et qui déprogramme, qui préfère enlever et couper le compte de ce type plutôt que de prendre des risques inutiles. Hein. Je vous le dis, la machine est bête, mais elle a peur. Aussi grosse soit-elle et aussi bête soit-elle, elle réagit. Vous savez, c'est très simple. Hein. Aujourd'hui, les GAFA, ils font des calculs qui vont extrêmement vite. Hein. Une réclamation, il vaut mieux couper le site litigieux et pas se poser la question de savoir si les gens sont dans l'illégalité ou pas, plutôt que de chercher les emmerdements. Croyez-moi, faites un mail collectif avec tous ceux qui ont déjà agi et qui ont fait retirer leur truc pour dire, voilà, le type continue, on vous le dénonce. Ça s'appelle une dénonciation, mais ça marche pour les trucs vraiment qui sont crapoteux. Il ne s'agit pas de dénoncer vos voisins en 1940. Hein, on parle de voix dénoncer, voilà, on est d'accord. Dénoncer quelque chose qui n'est pas... J'ai bien compris. Mais ce type fait du commerce, non? On est d'accord. Bon, bah, alors dites-le à Amazon. Écrivez-leur, vous verrez après, vous m'appellerez si vraiment ça marche pas, je vous ferai un courrier gratuit une fois, mais parce que vous voulez la gratuité que j'ai tapé sur les fanfictions.
Mais
je n'ai pas tapé complètement, j'ai tapé sur ceux qui le font, voilà.
Mais question, si le site qui fait cette fanfiction est connu de l'auteur et que l'auteur a autorisé, est-ce qu'on est dans l'illégalité dans ce cas-là?
Ah ben non. Si l'auteur, pour que l'auteur ait autorisé valablement, il faut qu'il ait autorisé par écrit. C'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Quand l'auteur doit céder tous ses droits expressément à son éditeur, avoir listé, une autorisation avec un mail, c'est rien. C'est embêtant, mais c'est rien. Il faut qu'elle soit détaillée, qu'elle précise le temps, les machins, la possibilité de faire du commerce, plein de choses. C'est rarement le cas, quand même. Hein. Donc, et puis, il n'y a pas d'autorisation la plupart du temps. Pas d'auteur qui autorise la reprise.
Vous disiez que vous avez contacté, l'auteur est prévenu et...
Oui, mais elle n'a pas autorisé. Elle lui a dit, que c'était qu'il pillait et qu'il fallait arrêter. Et de fait, il en a retiré. Celle sur laquelle vous êtes manifesté. Oui, c'est compliqué. Mais néanmoins, Amazon regardera. La seule difficulté en France, mais ce n'est pas un principe totalement idiot, hein, c'est que nul ne peut plaider pour autre que soi-même. Hein? Donc, voilà. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, un auteur qui se réveille, c'est bien. Un auteur qui ne veut rien faire, c'est tant pis, mais c'est comme ça. À vous de mobiliser vos camarades et vos comparses. Mais bon. Sinon, faites un courrier collectif. Malgré tout, ils regarderont. Et si c'est vraiment un truc à emmerdement pour eux, ils le couperont. Mais si personne n'a rien de façon collective, la machine, elle ne le fait pas. C'est une machine.
Je vous en prie.
Bien. Une autre question, peut-être la dernière?
Non, vous pouvez vous faire attaquer que pour une seule chose. Sinon, vous ne ferez pas attaquer pour diffamation. C'est un problème que j'ai eu plein de fois. Hein. Voilà, le seul moment où vous avez un ennui, c'est quand l'utilisation du nom d'un personnage est telle que ça devient ambigu, par exemple, sur la couverture ou en ligne. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est une œuvre de lui. D'accord ? Vous comprenez la nuance ? Par exemple, j'ai eu un problème important pour un garçon que j'aime bien, qui s'appelle Thomas Lélu, qui est un écrivain, qui avait fait un livre qui s'appelle « Je m'appelle Jeanne Masse ». Qui démarrait par « Je m'appelle Jeanne Masse et je suis une connasse ». Enfin, il y avait plein de choses derrière. Je vous passe le détail. Évidemment, la couverture, le titre, c'est « Je m'appelle Jeanne Masse ». On n'est pas passé loin de l'interdiction. Hein. On a gagné, mais ça s'est fait à un cheveu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une ambiguïté avec réellement des gens qui pensaient lire les mémoires de Jeanne Masse, vous voyez. Donc, ce qui n'était vraiment pas le propos. Voilà. Bon. Donc, la difficulté, on l'a comme ça sur 2-3 personnages. Les gens qui sont morts et enterrés depuis très longtemps, ça ne nous pose pas de grandes difficultés, à condition qu'il n'y ait pas d'ayant droit. Hein. Saint-Exupéry, les œuvres sont encore sous-protégées. Pour pas longtemps, mais elles le sont encore. Donc là, ça pose un problème si vous êtes ambigu dans la couverture, dans l'appel, entre guillemets, au lecteur. Si ensuite, on trouve Saint-Exupéry dans votre fiction, on s'en fiche. Ça pose pas de difficultés. Et vous pouvez être diffamatoire. Les morts n'ont pas droit à la diffamation, à leur vie privée. D'accord ? Donc, vous pouvez cracher sur les morts. Ça ne me dérange pas. Vous faites attention aux vivants. Non. Il y a officiellement une diffamation à l'encontre des morts qui existe dans la loi 1881. En pratique, la jurisprudence dit que les héritiers doivent prouver que ça rejaillit sur leur honneur. Impossible. Ça fait 25 ans qu'elle dit qu'il n'y a personne ne peut me prouver que ça rejaillit sur son honneur et peut agir au nom de son grand-père qui est mort. D'accord ? Seule chose qui existe après la mort, c'est le droit d'auteur, qui n'est pas la même chose, ça va ? C'est pour ça que sur le terrain du droit d'auteur, vous ne faites pas d'ambiguïté, ça n'est pas une œuvre de Saint-Exupéry. Mais si en revanche, vous voulez mettre que Saint-Exupéry est un mauvais aviateur et un mauvais écrivain, vous pouvez. Ça va ? Parfait. Sur ce, je crois qu'on doit libérer la salle. En plus, les enfants nous disent qu'il fait chaud, donc voilà. Pardon ? Oui, exactement. Oui, si vous le pensez. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'horreur à dire sur Victor Hugo. Enfin, que voilà. Hein, mais ça, c'est un point de vue personnel. Donc, qui n'engage que moi.
Voilà, bah écoutez, ce débat était très très intéressant. Nous espérons que ça vous a appris beaucoup de choses. Éventuellement, t'es à la bulle du livre.
Je suis là.
Donc effectivement, bah, vous, si vous avez envie de poursuivre la discussion, vous pouvez retrouver Emmanuel Pierrat sous la bulle du livre. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup. Merci à toi. Oh, c'est chaud quand même. Hein.
C'est chaud, oui.